Vous êtes sur RTL. 22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Mickaël.
Oui, bonsoir Blanche.
Caroline.
Oui, Caroline, pardon.
Mais bon, oui, Dublanche, c'est mon nom.
Oh,
ah oui, mais vous n'êtes pas le premier. C'est joli comme prénom, Blanche aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais moi, mon prénom, c'est Caroline, et mon nom de famille, c'est Dublanche.
Alors, une bonne année.
Ben, bonne année à vous également, Mickaël.
Beaucoup de choses. Moi, je souhaitais un peu vous parler parce que, si vous voulez, j'ai vécu 20 années. Je vais rencontrer mon compagnon il y a 20 ans en arrière.
Oui.
Enfin, 22 ans en arrière. Et on a fait des choses ensemble. Je l'ai rencontré dans un parking de supermarché. On s'est bloqué dessus. J'étais avec mon papa, on s'est bloqué dessus.
Mais bloqué dessus, c'est-à-dire que vous avez bloqué sa voiture.
On s'est regardé, on s'est regardé dans le parking. J'ai eu le courage d'aller lui parler.
Drôle d'endroit pour une rencontre.
Ah oui, j'ai eu le courage d'aller lui parler.
Mais coup de foudre alors, immédiat.
Immédiat. Je suis resté 20 ans, on s'est pas séparé 30 minutes en 20 ans.
Ah oui.
D'accord.
Mais comment faites-vous?
On a créé une entreprise, on a géré ensemble, on a essayé de faire les choses le mieux possible. Alors, il y avait des hauts et des bas, je dis pas. Et figurez-vous que, à un moment donné de ma vie, il a fait un arrêt. À 40 ans. Voilà. Il y a 2 ans, maintenant.
Mais un arrêt cardiaque.
Ouais. Oui. Je l'ai retrouvé dans le canapé à 4 heures du matin. Il était dans la chambre. Donc, 4 heures du matin, je l'ai retrouvé dans le canapé avec les chips. Le paquet de chips, ça a dû être foudroyant. Hein. Le paquet de chips, il y avait des chips partout. Il était effectivement sur le côté. Et voilà. Donc,
c'est terrible pour vous. Enfin, pour lui aussi, bien sûr. Parce que lui, au vu de ce que vous décrivez, il n'a pas dû se rendre compte et pas dû souffrir.
Ah non, il ne sait pas du tout. Il n'a pas souffert.
Oui. Il avait quel âge, votre compagnon? Quel âge?
40 ans.
Oh, 40 ans,
et ça faisait 20 ans qu'on était continuellement à deux, quoi, hein, qu'on a fait les 400 coups. Hein, voilà.
Oui.
Les premiers mois, j'ai eu une alcoolisation, très violente. Hein. Jour et nuit.
Vous avez trouvé ça pour vous anesthésier votre douleur, quoi, c'est-à-dire
mon personnel à l'époque m'a reboosté, m'a reboosté et m'a, me souviens, ma femme de ménage est venue et elle m'a dit, allez, c'est fini maintenant, j'étais au whisky, au pastis, ça c'était catastrophique. J'ai tout laissé de côté, enfin voilà.
Donc, vous avez arrêté d'un coup?
Ah oui, j'ai arrêté d'un coup, j'ai arrêté le 3 août, un coup, plutôt aucune substance. Pour une alcoolisation massive, hein, parce que c'était ça, c'était jour et nuit. J'ai repris un peu à me rhabiller, à faire les choses, à me sentir seul, et je pensais à lui tous les 10 minutes, hein, pendant tous ces mois, 6-7 mois, tous les 8 mois, même hein, tous les 10 minutes, il était dans ma tête jour et nuit. Je prenais des somnifères pour dormir, j'ai arrêté tout ça.
Non, mais c'est terrible, ce que vous décrivez. C'est vrai que c'est tellement brutal. Enfin, c'est tout d'un coup la vie qui bascule.
Oui. C'est la vie qui bascule. Oui. Vous perdez la moitié de vous-même, en réalité.
Mais oui, parce que vous étiez connu à 20 ans. Enfin,
Ah oui.
Et vous aviez construit, c'est ça. Vous aviez grandi ensemble. Enfin, vous êtes devenus adultes ensemble.
On est devenus adultes ensemble, même si on pourrait penser effectivement.
Ouais, et par moment, il y a le son, et je suis désolée, Mickaël, par moment, il y a des coupures, vous voyez, de réseau. Il ne faut pas trop bouger.
Bouge pas du tout.
Ben là, c'est mieux, là, c'est très bien, là. Là, je vous entends. Voilà.
Voilà, je rebouge encore un peu de l'autre côté. C'est vrai que je me trouve dans un secteur, dans un pile.
Ben là, vous voyez, je vous perds. Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas trop de réseau, c'est ça là?
Oui, c'est ça.
Vous m'appelez. Ben, là, c'est bien. Si vous pouvez ne pas bougé. Là, je vous entends bien à nouveau. Merci.
Voilà, je vous en prie.
Donc, en fait, le travail, cette entreprise que vous avez, cette affaire que vous aviez montée ensemble, vous a beaucoup aidé. Vous dites vos employés ont été très présents. Ça, vous ne vous êtes jamais arrêté.
Je me suis arrêté tout de même un an et demi.
Oui. Et l'affaire a pu tourner malgré tout.
Oui, par délégation.
Oui, d'accord. Bon, vous aviez des personnes de confiance.
Il n'y avait pas d'autre solution. Où effectivement, il n'y avait plus rien. Et nous, on avait fait un choix. Si vous voulez, quand j'ai rencontré ce garçon, l'homosexualité, quelque chose qui n'était pas particulièrement partagé dans mon entourage et même autour de moi. Donc on est resté toujours très, très discret. On a vécu.
Quand vous dites que ce n'était pas partagé, c'est-à-dire que dans votre famille, ce n'était pas accepté ?
Alors, pas du tout. Dans ma famille, j'ai eu un papa qui était extrêmement, comment on peut dire, très, très ouvert.
Il était là le jour de votre rencontre, si j'ai bien compris. Il était là. Il a assisté au coup de foudre. Oui. Il était tout seul, du coup, avec toutes les courses. Il a dû. Vous étiez focalisé. voilà. Oui, donc votre père lui était compréhensif, mais c'était dans alors votre mère ou des frères et sœurs
qui... dans l'entourage proche, oui. ce n'est pas spécialement familial, mais dans l'entourage proche, effectivement, je vous assure, moi je l'ai vécu, l'homosexualité était quelque chose c'était reculé. Mais on s'en penche pas trop. Les choses se sont améliorées avec le temps. Au fur et à mesure qu'on a avancé avec Marc, on s'est rendu compte que les gens, enfin, ou les personnes de notre entourage, proches ou moins proches, commençaient à accepter de mieux en mieux le fait d'être deux hommes ensemble. Si vous...
Et oui, c'est important ça, parce que parfois, il y a encore des personnes qui ont des a priori comme ça, sur des généralités. Là, ils ont appris à vous connaître. Et finalement, le couple que vous formiez, c'est vous qui les appréciez.
Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas où est ma phase de deuil. Si vous voulez, c'est-à-dire que j'ai eu une phase très difficile, très avec, comme je vous disais, cette alcoolisation massive.
Oui, oui.
La fin de cette alcoolisation, je pense toujours à lui, très clairement.
Oui.
Je vais pleurer, va falloir que voilà. Et je pense toujours à lui, je vis avec lui.
Oui.
J'ai l'impression qu'il est à côté de moi, comme si je perdais pied à certains moments et que je peux, par exemple, pendant je vais continuer ma réunion, je fais semblant de rien, mais je vais avoir pendant un moment sur des périodes passées des flashs, vous voulez.
Oui.
Qui arrivent à moi et je me mets à rêver à partir dans mon monde, à me ressasser le passé et j'ai beau étudier, aller sur mon internet, il n'y a pas tout, on est bien d'accord, mais parce que chacun a peut-être un deuil différent, fois je me dis, est-ce que j'ai pas un deuil pathologique parce que je suis peut-être encore trop dedans, j'arrive pas à tourner la page,
Quand vous dites, c'est encore très récent, c'était en janvier 2020, vous me dites.
Oui.
Donc là, on arrive en plus à une date anniversaire.
Oui.
C'est toujours douloureux et ça ravive. Vous voyez, ça ne fait que 2 ans. Le deuil pathologique et le deuil qui, au bout d'un moment, fait que. Je ne vais pas quantifier en termes d'années, d'ailleurs, mais plus le fait qu'on n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie. On n'arrive plus, au fond, à travailler, à aimer à nouveau, avoir d'autres liens, c'est-à-dire qu'on est absorbé dans un tête-à-tête, finalement, avec la personne disparue.
Voilà.
Donc là, c'est pas ce que j'entends chez vous. Vous me dites qu'il y a des moments où vous êtes au travail, où vous décrochez, et où vous me dites d'ailleurs que vous vous réfugiez dans votre rêve. C'est-à-dire que, où à nouveau, votre compagnon est présent, mais donc si vous parlez de rêve, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu doux finalement. Vous replongez dans vos souvenirs.
dans mes souvenirs.
Des souvenirs heureux, donc, que vous... Qui...
Pas spécialement.
Pas non. Spécialement.
Mais... Ah non. Sur des
temps... C'est pas bon, je vous perds là, à nouveau, Mickaël.
Ah oui.
Ça c'est vraiment terrible. Très entrecoupé. Oui, donc pas spécialement.
Pas spécialement, non.
Oui, mais vous n'êtes pas dans le. Vous n'êtes pas à revoir les images où vous l'avez trouvé dans le salon.
Non, ces donc images-là,
vous voyez,
non.
Il y a quelque chose. Parce que parfois, on reste face au choc. La brutalité, l'image traumatique, on n'arrive plus à sortir de cela. Ça envahit tout l'espace psychique, au point qu'on n'arrive même plus à se souvenir des moments doux et heureux.
Ou alors je me le cache.
Non, je ne crois pas.
Non.
Je ne crois pas. Mais non, parce qu'on ne peut pas se le cacher. C'est très envahissant. Quand il y a
je le vois effectivement dans le canapé.
Oui, mais sans que ça devienne envahissant.
Non.
C'est normal
non,
que vous le voyez.
Pas du
d'accord.
Tout. Voilà, je le vois dans le canapé. Oui. Ça, je lui ai dit au revoir, puisque le médecin, je me souviendrai toute ma vie, hein, le médecin des urgences m'a dit, dans l'état actuel de la science, nous ne pouvons plus rien pour Marc. Voilà, bon, ça a été une phrase qui restera toute ma vie, ça c'est sûr.
Bien sûr,
Et quand je pars dans ces rêves, voyez-vous, parce que je le sens que je décroche, puisqu'on me rappelle, si vous voulez. On me rappelle pas à l'ordre, hein, mais on me rappelle.
Oui, on sent que vous absentez.
Voilà, on sent que je m'absente. Voilà, mon entourage sent une absence, où on me le rappelle. Et ça peut être sur des... Vous savez, je sais pas si des auditeurs ont pu... Bon, j'écoute souvent votre émission, parce que j'aime beaucoup. Et on a des sensations de revivre la même chose.
Oui, des réminiscences en fait.
Ça peut être sur n'importe quoi, mais c'est quelque chose comme si je l'avais vécu avec, vous voyez. Et c'est là où je repars, en fait. J'ai l'impression de partir dans mon monde.
Quand vous dites revivre la même chose, c'est-à-dire vous avez un exemple là, qui vous revient en tête
En début d'après-midi, alors que une personne est partie au WC, donc voilà, il a fait tomber un stylo, par exemple. C'est tout
oui.
Bête.
Oui.
Et je me souviens qu'il avait fait tomber le stylo comme si c'était la même chose.
Ah oui. Donc c'est quelque chose de très anecdotique, mais il y a tout d'un coup un flash.
Et voilà. Et par exemple, je vais me retrouver avec mon véhicule sur une route de campagne. Je vais m'apercevoir d'un, je sais pas moi, par exemple, une voie ferrée, pour vous donner une idée. À partir du moment où je vais voir cette voie ferrée, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu avec Marc.
Oui, c'est ça.
Pourtant, je n'ai jamais passé là avec lui.
Oui, mais en même temps, vous l'avez rencontré, vous aviez 20 ans.
Oui.
Vous êtes restés, me dites-vous, 20 ans ensemble.
20 années.
Où vous ne vous êtes pas quittés plus de 30 minutes.
Absolument.
Me dites-vous. Donc, on voit à quel point vous étiez dans une relation extrêmement fusionnelle. Et d'ailleurs, votre vie privée et vie professionnelle étaient mêlées, puisque de fait, vous avez créé une entreprise.
Elle était mêlée.
Et je trouve, franchement, en vous écoutant, ce que vous me dites, mais aussi votre façon de parler, votre intonation, votre débit verbal, je trouve que finalement, vous allez plutôt bien. C'est-à-dire que vous avez, semble-t-il, surmonté cette séparation, même si ça n'empêche pas le chagrin, la nostalgie et le fait, évidemment, c'est toute ces 20 ans de vie que vous avez vécu, il y a ces souvenirs qui sont présents, mais qui n'entraînent pas des idées sombres chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des moments. J'imagine, la première année, quand vous vous êtes arrêté, l'alcool.
Il y en a eu.
Mais je trouve que vous êtes. Je ne sais pas comment vous avez été. Est-ce que vous vous êtes fait aider?
Comment par rapport à l'alcool? J'ai fait un an et demi de thérapie.
Oui.
Intensive, tous les soirs, une heure. Tous les soirs.
Vous y allez tous les jours?
D'accord. Tout, il m'appelait et je le voyais une fois tous les 15 jours.
Ah oui, parce que c'était en plein, il y a eu après le Covid là, donc.
Oui, puis il était pas possible. Il était téléphone. Voilà, il était pas possible parce que, comme il m'expliquait, je te mets des clés et à toi de bien réfléchir, de bien prendre en compte. Oui, et ça en est devenu un ami, oui.
Oula.
Ah oui, oui. Et la thérapie s'est arrêtée en septembre d'un accord commun parce que c'était plus possible. Je devenais très proche de mon psy.
Oui, ben
cet élan que vous me parlez aujourd'hui, je l'ai toujours eu. Ça veut dire que j'ai une facilité de communication, ce qui a fait mon, non, qui en a fait mon métier. Oui. Mais voilà. Mais
quand vous dites d'un
su...
commun accord, vous avez arrêté, c'est-à-dire parce que si vous avez été si proche,
en
thérapie, bah oui, parce qu'à un moment, c'est que lui aussi n'a pas forcément posé un cadre. C'est tous les patients veulent être proches de leur psy. Mais vous voyez, il y a, on est proche, il y a une proximité, il y a une très grande intimité psychique, affective. Mais pour autant, le thérapeute doit poser le cadre.
Ça a été très difficile de poser un cadre à un certain moment. Voilà, peut-être les premiers temps, oui, sûrement. Mais je me suis fort rapprochée. Et lui aussi, hein, voilà.
Tout en le voyant au téléphone, finalement. Enfin, en ne voyant pas, plus exactement.
Une fois tous les 15 jours.
D'accord.
Une fois tous les 15 jours. Ouais, et tous les soirs, pendant une heure, voilà.
C'est beaucoup, oui, tous les soirs.
J'ai remis, je suis reparti. On est reparti dans le passé jusqu'à l'enfance, hein. Donc, ça a été intensif. D'accord. Pendant 18 mois.
Et alors, vous avez arrêté, mais c'est-à-dire que vous, comment vous l'avez vécu, cet arrêt de la thérapie ?
En soi, bien, parce qu'à un moment donné, il faut décrocher. Je pense qu'il faut décrocher. À un moment donné, c'était pas possible de rester...
Oui, mais là, vous avez décroché pour une raison finalement, il y avait une trop grande proximité. C'est comme si vous étiez dans une relation d'amitié.
Je pensais vraiment... Vous voyez, j'en ai plus la même... Voilà. Mais je pensais vraiment, en septembre, début septembre, que je repartais sur des... reprendre mon activité professionnelle, intensément, repartir sur un nouveau
d'accord,
cadre.
D'accord, vous pouviez à nouveau investir votre énergie à l'extérieur. Oui. Vous voyez, un deuil pathologique, on ne peut plus... Toute la libido, qui est l'énergie vitale, elle est absorbée par la personne disparue. Et donc, il y a quelque chose qui devient un peu mortifère, c'est-à-dire que petit à petit, on se coupe du monde et du monde des vivants. On est absorbé dans un état assez mélancolique.
C'est pas mon cas.
Non. Non.
C'est pas du tout
le sentiment que vous me donnez.
Non.
Et je trouve qu'au vu de la relation très fusionnelle que vous aviez et de fait que vous travailliez ensemble en plus de votre histoire d'amour, vous avez une capacité à vous remettre. Peut-être d'ailleurs parce que cette histoire, même si elle s'est arrêtée de façon tragique, vous l'avez pleinement vécue. Enfin,
complètement.
Il y a eu quelque chose de très fort entre vous.
Complètement. On était complémentaires. Voilà, s'il y avait quelque chose dans... C'était ma moitié, la personne avec qui je pouvais lui dire mes chagrins, mes difficultés. Ses conseils étaient très probateurs. J'ai vraiment été accompagné, et je l'ai accompagné vraiment main dans la main pour tous les actes de la vie. Quand vous avez une entreprise, vous êtes attaqué de partout, vous le savez, enfin, j'imagine. Voilà, donc à partir du moment où vous êtes attaqué de partout, vous avez un soutien, et ce soutien était puissant.
Oui, c'est ça. Vous étiez à la fois amant, amoureux et partenaire aussi dans le travail.
Oui.
Comment vous faites alors justement, parce que vous dites que vous êtes relancé dans le travail, ça a dû aussi vous permettre de tenir, mais il doit aussi vous manquer dans le travail.
Non. Indépendamment du travail, c'était une aide
morale.
Très, très, très intense. C'est-à-dire que je pouvais lui téléphoner, je n'avais aucun doute sur ce qu'il allait faire. Je le savais que si je lui disais, par exemple, là, il faut tel ou tel hamburger, telle chose, telle nouvelle création, tel fiche de process, je savais, au fond de moi, que ça aurait été fait dans les règles de l'art.
Oui.
J'avais pas de doute. Je ne revenais pas aller voir, comme ça peut être des fois le cas, ou aller revérifier, ou aller retamponner l'histoire. Mais enfin pas l'histoire, mon travail. Mais cette confiance, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que celle-ci me manque clairement. C'est-à-dire que je suis obligé de retourner plusieurs fois sur mes demandes. Mais j'arrive quand même à me débrouiller. C'est terrible. Oui.
Non, c'est pas terrible.
C'est plutôt le lit seul. C'est plutôt le petit déjeuner du matin. Oui. C'est prendre des vacances à l'étranger. C'est partir. Bon, là, c'est avec le Covid, c'est un peu compliqué. Oui. Mais tout ce quotidien me manque terriblement. Mmh. Et au départ, j'étais tous les 10 minutes. Et aujourd'hui, je suis plus, peut-être 5 ou 6 fois par 24 heures, je pense à lui. Mmh. Ou des moments de baisse de régime, de perte, de perte.
L'intensité est moins douloureuse, en tout cas. Et vous pouvez penser à lui sans être écrasé par la douleur. C'est aussi ça, en ça, que le travail de deuil se fait.
Travail de deuil est en plusieurs étapes. J'imagine que je ne suis pas du tout dans l'étape de l'acceptation. J'en suis certain.
Vous savez, ces étapes-là, elles ont été décrites et un peu reprises. Ça aide les personnes qui confrontées. On est tous, à un moment donné, bien sûr, on perd un être cher. Et ça a un côté rassurant de se dire qu'il y a des étapes, mais ces étapes...
Elles sont propres à chacun. Ça correspond
à une réalité. Mais qui varie selon les personnes, selon l'histoire qu'elles avaient avec l'être aimé, selon leur personnalité. Parfois, il n'y a pas un enchaînement chronologique comme on peut le lire. Voyez, un ordre logique. Il y a une étape. Et puis parfois, on croit que ça y est, on est dans la phase d'acceptation. Et puis on peut être submergé à nouveau. Il y a des dates anniversaires qui vont nous ramener à la dimension de la perte. Des périodes de la vie où on se sent plus fatigué physiquement, parfois, ou un peu. Mmh. Bon, des contrariétés. Donc, vous voyez, c'est pas linéaire. Ça, c'est rassurant. Hein, on en parle beaucoup de ces étapes du deuil. Ça rassure de savoir que, bien sûr, qu'il y a des évolutions, des phases qu'il peut y avoir par moments où on considère que, alors qu'on allait mieux, on a le sentiment de replonger et à nouveau d'être submergé. Mais ce qu'on constate quand même au fil du temps, c'est que l'intensité douloureuse, heureusement, diminue.
Et que... Parce qu'on oublie. Parce qu'on n'oublie pas,
justement, le travail de deuil n'est pas l'oubli. Et c'est là où il y a une grande confusion, parce que, si vous voulez, ça a été repris, et c'est bien vulgarisé, mais quand Freud en a parlé, il parlait d'un travail psychique de deuil, donc qui se fait malgré nous.
Malgré nous.
Mais oui, ça se fait malgré nous. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aujourd'hui, je suis dans l'étape 1, dans 3 mois, je vais être dans l'étape 2.
Ça se fait malgré nous.
Et oui, ça se fait malgré nous. Et le travail de deuil est tout sauf l'oubli. Parce que combien de fois j'ai entendu des personnes, et à juste titre, me dire « Mais moi, je ne veux pas faire de deuil. » Ou « faire mon deuil ». C'est absurde, cette expression. On dit « faire le deuil ». Il serait plus logique de dire de « travail de deuil », mais c'est un travail psychique qui se fait à notre insu. Et les gens, ça a été vulgarisé dans le travail de deuil, enfin de faire mon deuil, pardon, vous voyez, même moi je m'en mêle les pinceaux, faire mon deuil. Et beaucoup de gens pensent que faire le deuil, c'est oublier, alors que c'est pas du tout ça. Ce qui se met en place, progressivement et au fil du temps, et le temps aide aussi, c'est finalement la personne disparue, on l'intériorise en nous. C'est ce que vous dites au fond. Alors, l'intérioriser en vous, ça ne veut pas dire vivre avec un fantôme qui serait dans une crypte et qui pourrait nous empêcher de vivre. C'est dur, on ne peut pas cohabiter avec un fantôme. Non. Mais c'est qu'on intériorise tout ce que cette personne a été, tout ce que l'on a vécu de beau, de bon, et de moins bon d'ailleurs. Parce que le vrai deuil, quand une personne disparaît, on lui trouve toutes les qualités, et d'autant plus, et souvent d'ailleurs on n'ose pas, bon. Et finalement, au fil du temps, on peut repenser avec tendresse, avec émotion à cette personne, sans être submergé par la douleur, et on peut revoir des bons moments, mais aussi des moins bons, et c'est-à-dire au fond admettre ses qualités et ses défauts, comme tout un chacun. voyez, on n'est plus dans l'idéalisation.
Est-ce qu'on n'a pas une capacité à, puisque la vie avance, à laisser un peu derrière soi quelque part? Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que non, n'est pas justement, notre cerveau n'est pas programmé à oublier? Quand je parle de l'oubli, je vous parlais de cela. Par exemple, ma grand-mère est partie en 2000. Aujourd'hui, j'y pense beaucoup moins que j'y pensais la première année.
Heureusement. Donc, c'est ça, ben oui. Heureusement. Parce que notre psychisme. Mais alors, notre psychisme n'est pas fait pour être écrasé à temps plein par la douleur.
Entendu.
Morale. Vous voyez? Ou alors on disjoncte, parce que c'est ça, on peut parenter aussi. Oui, on perd pied. Ou alors, on, malheureusement, on peut, quand vous parliez de deuil pathologique, c'est-à-dire qu'on est dans une mélancolie, mais pas la mélancolie décrite par les écrivains au sens romantique du terme.
Bien sûr.
Une mélancolie au sens d'une dépression mélancolique où finalement l'énergie ne va plus du tout à l'extérieur, il y a un repli sur soi-même très mortifère, et où finalement là, c'est comme si à l'intérieur de la tête, on avait une crypte, et dans cette crypte, le fantôme de l'être disparu. Et donc, on ne peut plus avoir de lien avec les vivants parce qu'on est dans ce tête-à-tête morbide avec ce fantôme.
Voyez, ouais, j'ai compris.
Donc, quand je vous entends, on est très loin de ça.
Ah oui.
Voyez.
J'essaie de... Après, c'est vrai qu'il y a des questions. Par exemple, je suis incapable de retrouver quelqu'un, par exemple. Ça, c'est pas du tout dans l'imagination.
Oui.
Beaucoup de personnes autour de
moi... Mais pour retrouver, pour trouver, il faut chercher. Ça peut aussi se présenter. Vous n'en êtes pas là pour le moment.
Ah non.
Vous pouvez, comme... Alors, et ça peut être différent. Vous savez, la vie... Comme vous aviez été faire vos courses avec votre papa ce jour-là, vous vous attendiez pas à faire une rencontre aussi déterminante.
Pas du tout, et c'était pas du tout mon bord.
Voilà. Donc la vie aussi nous laisse comme ça des.
Chaque relation est différente.
Mais oui. Parce que le jeune homme que vous étiez, l'homme que vous êtes devenu, voyez, vous aussi, vous avez évolué.
Absolument.
Donc,
et ça ne sera jamais la même chose. À beaucoup de gens dans l'entourage, oh, il faut que tu retrouves quelqu'un, tu ne peux pas rester seul. Comme, et j'ai l'impression que ces gens-là ne peuvent pas justement comprendre. Ben oui.
Si. Pourquoi dites-vous qu'ils ne peuvent pas comprendre?
Par exemple, alors je parle des gens-là, l'entourage, si vous voulez, proche. Quand je dis ces gens-là, je mets deux guillemets de chaque côté. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'à les entendre, Marc est parti, c'est le coup fatal de la vie qui fait que il devait partir. Et pourquoi tu retrouves pas quelqu'un?
Oui, c'est-à-dire que parfois il y a de la maladresse, il y a certainement beaucoup d'affection pour vous. Et de la maladresse, comme si c'est une façon de vous dire il peut arriver autre chose, ce qui n'est pas faux, mais en tout cas on peut faire mal en disant ça parce que pour le moment c'est prématuré, c'est trop tôt et vous n'êtes pas prêt à entendre ça. Voyez, mais ça fait partie des choses que l'on dit parfois pour consoler, même si ça ne console pas vraiment. En tout cas, merci d'avoir appelé Michael parce que ça nous a permis, à travers votre histoire,
vous avez une équipe formidable.
Oui, ça c'est vrai. Je vous confirme. Je vous embrasse, Michael, et je vous souhaite de retrouver, de continuer dans cette voie de l'apaisement comme ça. Au revoir. Et on peut parler de tout, vous le savez, dans cette émission, puisque c'est vous qui composez le programme chaque soir.